Bonjour.
Bonjour, le procès de la Banque cantonale de Genève est entré ce matin dans une seconde phase, celle des plaidoiries de la défense, objectif des avocats de Dominique Ducret, l'ancien président de la banque, démonter le réquisitoire du procureur, nous dira Sylvie Belzer en direct de Genève. Quatre cantons s'unissent pour promouvoir et protéger les sites palafitiques de la région des Trois Lacs inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Berne, Neuchâtel, Fribourg et Vaud travailleront main dans la main sur des projets communs, culturels ou scientifiques. Bernard Poulvert, le président du gouvernement bernois, sera notre invité. Dans ce journal également, la colère des artistes hollandais. Le budget pour la culture aux Pays-Bas sera réduit prochainement de 25%. Après cette annonce du gouvernement, des milliers d'artistes sont descendus dans la rue pour tenter d'empêcher ces restrictions budgétaires, mais sans succès. Reportage à Amsterdam de Sonia Johnson. Nous parlerons gestion de l'eau en fin de journal. Durant 3 jours, des dizaines de scientifiques sont réunis à Sion pour échanger sur le fonctionnement national des cours d'eau. L'un d'eux, Emmanuel Reynard, directeur de l'Institut de géographie de l'Université de Lausanne, sera notre invité. La chaleur sera bel et bien au rendez-vous cet après-midi. Il fera jusqu'à 29 degrés. Demain, le mercure atteindra même les 32 degrés. Une perturbation nous touchera toutefois demain soir. Météo de Carole Dubuis dans une demi-heure. Place donc aux plaidoiries de la défense. Aujourd'hui, au procès de la débâcle de la Banque cantonale de Genève, à commencer par celle des avocats de Dominique Ducret, l'ancien président de la banque. Une plaidoirie importante puisque les avocats tentent de démonter le réquisitoire du procureur pour atténuer la peine au maximum, Sylvie Belzer.
Dominique Ducret est un homme intègre, loyal et transparent qui a toujours agi dans l'intérêt de la banque. C'est aussi un chrétien engagé. En témoignent par exemple ses activités pour Caritas. C'est ainsi que Maître Assal dépeint son client et plaide l'acquittement. Un homme meurtri aussi par 11 ans de procédure, une torture juridique, affirme-t-il. Presque de la semi-détention, ce qui exclut toute activité professionnelle, et de prendre un ton accusateur quand il parle du ministère public. C'est une justice rouleau compresseur, destructrice, humiliante. On piétine ces hommes qui n'ont pas mis un franc dans leur poche. Aucun magistrat n'a eu le courage de tirer la prise sur ce qui ne relève pas du pénal, et surtout pas le procureur qui bricole pour trouver des circonstances aggravantes avec pour seul mobile l'appât du gain et la réputation. Mais Dominique Ducret aurait gagné beaucoup plus d'argent s'il avait continué à œuvrer comme avocat plutôt que de se consacrer corps et âme à la banque pour un poste à mi-temps seulement. Sa voix prend alors des intonations de prêche pour rappeler le parcours sans faute de son client, dont tous les témoins qui ont défilé, tous sans exception, ont rappelé la loyauté, l'ouverture et la propension au compromis. Un argumentaire qui n'émeut guère le procureur, les yeux rivés sur son ordinateur, pas plus que les juges, dont le visage ne trahit pas la moindre émotion. Des plaidoiries qui se poursuivent cet après-midi.
Sylvie Belzer en direct de Genève. On va prendre des nouvelles de la route.
Infotrafic RSR.
Sur l'autoroute Genève-Lausanne, un accident est survenu et perturbe le trafic entre les jonctions de Nyon et de Gland en direction de Lausanne. Bilan positif pour la nouvelle politique régionale, la NPR, dans le canton de Fribourg. Un canton qui dressait ce matin son bilan de la NPR entre 2008 et 2011. 36 projets ont été soutenus grâce à cette politique pour un montant global de 33 millions partagés entre Confédération et canton. 36 projets dont celui initié en Veuvez. Il prévoit de vouer cette région et ses infrastructures à l'accueil de personnes handicapées. C'est le projet Loisirs pour tous. Et la nouvelle politique régionale requiert une collaboration trans-régionale, comme l'explique Beat von Lanten, directeur de l'économie du comté de Fribourg.
La LIM était là pour soutenir la création d'infrastructures de base, dalles de gymnastique, etc. Mais maintenant, la nouvelle politique régionale envisage de créer de la valeur ajoutée dans les régions, de pouvoir créer de nouvelles places de travail. Et c'est dans ce contexte-là que la coordination, la coopération aussi entre les régions doit se faire, même la coopération au-delà des frontières cantonales. Et c'est cette nouvelle approche qui lance une nouvelle dynamique dans la politique économique. Et je pense que là, c'était vraiment un changement copernicien de cette politique qui a une vitesse de croisière intéressante.
C'est aussi une nouvelle mentalité. On n'attend plus la subvention qui tombe du ciel à Berne.
Vous voyez, là, la Confédération a quand même un intérêt de pouvoir soutenir les différentes régions, le développement de ces régions et de réduire les disparités régionales. Et c'est dans ce contexte-là que la Confédération doit pouvoir s'impliquer aussi à l'avenir, mais le canton a l'intention de pouvoir vraiment aussi soutenir de manière très forte cette politique.
Des propos recueillis par Pierre Berset. Berne, Neuchâtel, Fribourg et Vaud s'unissent pour promouvoir les sites palafitiques de la région des Trois-Lacs inscrits à l'UNESCO. Leur objectif, rendre visible ce patrimoine culturel à travers des projets de recherche scientifique, mais aussi des projets touristiques, culturels et éducatifs. Les quatre cantons ont présenté ce matin leur projet commun avant la signature cet automne d'un concordat intercantonal. Bernard Poulvert, bonjour.
Bonjour.
Présidente du gouvernement bernois, alors Bernard Poulvert, quelle est l'importance de cette union à quatre cantons pour ce projet ?
Je crois que cette union montre que les sites palafites, maintenant inscrits comme patrimoine à l'UNESCO, est quelque chose qui unit tout d'abord cette région des Trois-Lacs, qui s'est composée de quatre cantons. Et c'est nos ancêtres qui ont habité cette région d'une manière archéologiquement aujourd'hui bien découverte et où on sait de plus en plus les éléments. Et je crois que ça unit cette région et c'est quelque chose de très positif.
Est-ce qu'il est possible d'aller plus loin, puisqu'on sait que vous allez notamment créer peut-être des programmes dans les écoles? Est-ce que créer, par exemple, un grand musée ou un grand parc d'attractions commun, est-ce que c'est possible pour mettre encore plus en avant ces différents sites?
Justement, notre vision d'exploiter ce patrimoine UNESCO, c'est de ne pas créer nos grands centres de visiteurs, parce qu'on a beaucoup fait déjà. Il y a un musée Laternium à Neuchâtel, il y a le musée Schwab à Berne et à Bienne, il y a un musée historique à Berne qui va bientôt faire une exposition en 2014 sur les palafites, sites palafites, et on a une base de plongeurs où on peut visiter, voir les plongeurs en travaillant sur le lac de Bienne, à Soutzlatrigen. Donc il y a beaucoup de choses qui se font et nous voulons, dans une vision d'un développement durable, on ne veut pas créer maintenant une nouvelle grande infrastructure pour des dizaines de millions, on veut travailler en réseau.
Donc, le visiteur, concrètement, il aura quoi à disposition quand il va se balader sur les différents sites ?
Alors aujourd'hui, il y a une application iPhone, par exemple, où vous pouvez aller sur les différents sites et regarder ce qu'il y a sur les palafites, des informations scientifiques, des commentaires, des films. En plus, on aimerait bien faire une brochure commune, promouvoir aussi le tourisme dans la région et puis faire des moyens d'enseignement pour les écoles, pas seulement sur les palafites, mais sur les 10 sites patrimoine mondial de la culturelle inscrits à l'UNESCO, donc pour montrer la richesse des sites qu'on a en Suisse.
La région des Trois-Lacs, vous en avez parlé avant, elle se trouve en partie sur la Suisse romande, sur la Suisse alémanique. C'est possible de créer un lien commun, vraiment ?
Oui, je crois. La conférence de presse d'aujourd'hui avec M. Gnegi, M. Martaler et moi, donc Mme Chassot a été excusée, mais les quatre cantons se sont réunis aujourd'hui pour montrer on va travailler ensemble. Déjà sur le point de vue scientifique, les archéologues sur le terrain, ils doivent savoir les connaissances des autres, les exploits, les nouveautés que les autres ont peut-être trouvées dans leurs fouilles. Donc là, le travail fonctionne très bien et nous allons aussi travailler mieux encore au niveau politique pour promouvoir la région touristique des Trois-Lacs.
Et d'ailleurs, il y aura la signature cet automne d'un concordat intercantonal justement pour unir ces quatre cantons sur ce dossier. Merci Bernard Poulvert, président du gouvernement bernois. Il avait répondu à l'invitation d'Alexandra Richard. Nestlé a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord sans précédent avec le leader chinois de la confiserie. Avec cette opération évaluée à 1,4 milliard de francs, le groupe vaudois est sur le point de réaliser l'une des plus importantes acquisitions d'une société chinoise par un concurrent étranger, Simon Pitet.
Su Fushi est une entreprise familiale qui vend des confiseries, des snacks et des petits gâteaux, et qui en vend beaucoup. L'an dernier, elle dégageait un chiffre d'affaires de près de 600 millions de francs suisses, de quoi titiller l'appétit de Nestlé, un groupe vaudois aujourd'hui prêt à mettre la main en porte-monnaie. Reda Idrissi Kaitouni, spécialiste de la Chine à la Banque Pictet.
Ça reflète en fait aujourd'hui l'intérêt des entreprises étrangères à l'international sur le marché chinois, vu que celui-ci se bascule vers une économie qui est davantage axée vers la consommation domestique et moins axée vers les exportations. Et donc ce changement du modèle de croissance de l'économie chinoise est un fort attrait vu la taille et la profondeur de ce marché pour les entreprises qui ne cherchent plus à s'y installer pour exporter, mais qui cherchent à s'y installer pour vendre directement aux consommateurs chinois et en produisant pour le consommateur chinois.
Le consommateur chinois, Nestlé le connaît d'ailleurs plutôt bien. Le géant de l'agroalimentaire est présent dans le pays depuis plus de 20 ans, y gère 23 usines et emploie 14 000 personnes. Une expérience bienvenue dans un contexte chinois souvent qualifié de protectionniste. Pour les analystes, ce n'est d'ailleurs pas un miracle si cette transaction record concerne le secteur agroalimentaire, un secteur nettement moins sensible stratégiquement que celui de la banque ou des télécommunications.
et précisons que la transaction doit encore obtenir l'aval des autorités chinoises. Et toujours au chapitre économique, le groupe chimique Balwa-Lonza va s'emparer de l'entreprise américaine Arc Chemicals. Un accord a été signé pour le rachat de la totalité des actions. Cela représente un montant d'1,250 milliard de francs. Le personnel de l'hôpital intercantonal de la Broye, situé à Payerne et à Estévayer-le-Lac, souhaite obtenir un statut de droit public. C'est le sens d'une pétition munie de 240 signatures qui a été remise ce matin au conseiller d'État vaudois Pierre-Yves Maillard et à sa collègue fribourgeoise Anne-Claude Demierre, tous deux responsables de la santé publique. Michel Eman, le syndicat a organisé ce matin une conférence de presse pour expliquer les revendications.
En effet, actuellement, le personnel de l'hôpital est soumis pour l'essentiel au droit privé qui offre de moins bonnes conditions de travail, une protection moindre contre les licenciements et des salaires plus bas. La moitié du personnel a signé cette pétition. Elle souhaite que les salariés puissent bénéficier d'un statut public. Les salariés auraient en effet tout à y gagner, mais aussi les patients. Pour le syndicat, obtenir le statut de droit public contribuera aussi à garantir des soins de qualité et un personnel qualifié. La grande crainte des salariés, c'est l'introduction dès l'an prochain des nouvelles règles de financement hospitalier qui introduisent davantage de concurrence. Comme les salaires représentent plus de 70% des coûts d'un hôpital, les syndicats craignent que le personnel ne voit ses salaires diminuer. Un statut de droit public donnerait une meilleure protection aux salariés, d'où la pétition de ce jour. La balle est désormais dans le camp des autorités politiques.
Michel Eman du bureau vaudois de la radio suisse romande. Plus de 100 personnes, dont de nombreux enfants, ont sans doute péri dans le naufrage d'un bateau de croisière sur la Volga, à 800 km de Moscou. Selon les dernières estimations, 196 personnes se trouvaient à bord de ce bateau, le Bulgaria, qui n'avait pas le droit d'embarquer plus de 120 personnes. Et au moins 11 personnes ont été tuées aujourd'hui dans une série d'explosions survenues sur la principale base navale de l'armée chypriote grecque, a rapporté la télévision publique. On parle également d'une trentaine de blessés. Un écran gonflable, des transats, la gratuité des films, une ambiance bon enfant, c'est l'esprit du Festival Ciné Transat à Genève. Le public va revivre cette formule à succès tout cet été. Ils étaient 26 000 l'an dernier à se presser dans le parc de la Perle du Lac, au bord du lac, pour assister aux projections ainsi qu'aux soirées à thème qui les accompagnent. Les films, précisons-le, sont choisis par le public. Bonjour Dana Cher.
Bonjour.
Vous êtes l'organisateur de Ciné Transat. Il y a parfois plus de 2000 personnes qui se pressent devant vos écrans. Comment est-ce que vous expliquez votre succès ?
Je crois que c'est parce que c'est un événement qui... Les gens se sont vraiment appropriés. C'est un événement qui marche très très bien. Les gens viennent, on encourage les gens à venir faire des pique-niques, se poser en fin d'après-midi au profiter du lac, de la buvette. Et il y a tout un aspect vraiment participatif à l'événement. Donc les gens se sont acquis cet événement et ça marche très bien comme
on
ça.
On va d'ailleurs parler du participatif. Il y a une nouveauté cette année, c'est ce que vous diffusez avant le film, des films suédés par le public. Ça veut dire quoi concrètement ?
Voilà, alors suéder un film, ça veut dire recréer le film soi-même avec les moyens du bord, des films de 2 minutes, donc en papier mâché, en jeu d'acteur, n'importe comment. Et on recrée donc avec les scènes cultes du film, on recrée le film. Donc on a proposé à la population de suéder toute la programmation et on passe les version suédoise avant les films.
Donc les gens peuvent voir effectivement ce qu'ils ont fait. Des bonnes surprises alors dans ce cas-là ?
De très très bonnes surprises, des choses vraiment vraiment super drôles. Là on a eu une version de Dirty Dancing absolument incroyable et quand on les passe au public même sur place, il y a tout le monde qui a éclaté de rire. Enfin c'est quelque chose de très très beau.
Donc on fait appel à la création du public, à ce côté participatif dont on parlait. Programmation, vous venez de le dire, hein, Dirty Dancing, Top Gun également, il y a aussi du Chaplin. Cet aspect participatif, on dit au public choisissez ce que vous voulez voir. Vous pensez aussi que ça crée effectivement une émulsion et que c'est pour ça que l'an passé vous avez eu aussi 26 000 personnes qui sont venues.
Tout à fait. Donc c'est quelque chose qu'on fait d'année en année. On propose à la population de faire la programmation des films, enfin de nous faire des propositions. Cette année, il y a eu 2100 films qui ont été proposés. On a mis 7 heures pour dépatouiller tout ça. Et encore une fois, ça engage le public. Dans la même veine, avant les films, on projette du karaoké géant. C'est pas quelqu'un qui vient prendre le micro, mais en fait, il y a juste les paroles qui apparaissent. Il y a toute la foule qui se met à chanter ensemble. Encore une fois, c'est vraiment super participatif et très très bon enfant.
Donc l'idée pour vous, c'est pas de miser que sur le cinéma. Il faut tout ce qu'il y a autour aussi.
Tout à fait. En fait, le film, c'est presque une excuse pour proposer aux gens de vivre ces instants ensemble.
Un mot sur le cinéma 3D, sauf erreur, il n'y en a pas vraiment dans votre programmation. J'ai un peu survolé ça tout à l'heure. C'est pas votre créneau. Vous préférez encore proposer des choses qu'on ne voit plus trop à la télévision, par exemple ?
Bon, on n'a pas les moyens techniques de faire les 3D. J'aurais bien voulu proposer un film 3D où on distribuerait
des lunettes.
Des lunettes. Bon, on y arrive petit à petit, mais l'idée, c'est plus vraiment ce vécu sur la pelouse, ce vécu tous ensemble. Maintenant, il y a des films, que des films qui finissent bien. Voilà, on est vraiment dans cet esprit-là.
Je vous remercie, Dana Cher, organisateur de Ciné Transat. Ça se déroule jusqu'au 14 août prochain du côté de Genève. Vous répondiez à l'invitation de Pierre-Antoine Préty. Bonne journée à vous, bon festival.
Bonne journée, merci.
Et culture encore, cette fois, le budget dédié à la culture aux Pays-Bas, il va être réduit de 25%. C'est ce qu'a annoncé il y a quelques jours le gouvernement. Du coup, des milliers de manifestants artistes et défenseurs de l'art sont descendus dans la rue pour tenter d'empêcher cette action. Mais en vain, le Premier ministre néerlandais, tout en reconnaissant la place importante de la culture dans le développement de son pays, confirme toutefois cette nouvelle direction. Reportage Sonia Johnson.
Défense d'entrée aux Pays-Bas, effondrement culturel en mouvement. Voici l'annonce faite dans le New York Times après la décision de la deuxième chambre de réduire de 25% le budget total consacré à l'art et à la culture. Certaines institutions prestigieuses comme l'Orchestre Symphonique de Limbourg sont sur le point de perdre leurs subventions. Pour le Premier ministre néerlandais, ces économies ne remettent pas en cause l'intérêt accordé à la culture qui pourra encore bénéficier d'un large budget. Mark Rutte.
For me, the cultural sector.
Pour moi, le secteur culturel est extrêmement important pour le climat de l'investissement aux Pays-Bas. Dans le même temps, quand les artistes demandent au gouvernement de les supporter, cela ne pose aucun problème, ni le concept même de subvention, mais on doit aussi pouvoir leur demander quelque chose en retour, qu'ils soient capables de générer eux-mêmes un revenu suffisant pour ne pas être dépendants à 100% des subventions. Voilà ce que nous demandons maintenant. Et même après cela, les Pays-Bas sont dans le peloton de tête pour les dépenses publiques consacrées à la culture, 5 fois plus que l'Angleterre par exemple. Et cela ne me dérange pas, j'en suis content. Mais ce que nous ne pouvons pas continuer à faire, c'est supporter des théâtres vides, des artistes qui ne vendent aucun objet. Il doit y avoir un certain niveau de succès dans la vente des produits. Et dans le même temps, les grandes institutions, eh bien, nous essayons de les préserver autant que possible des économies.
Cyril Directi est un musicien reconnu aux Pays-Bas. Il a été formé dans une école prestigieuse de musique et en plus de concerts réguliers, il joue toutes les semaines au Café Alto, un café-concert réputé à Amsterdam, aux côtés du saxophoniste Hans Dulfer. Cet artiste peut se vanter d'avoir bâti sa carrière à la seule force de son travail, car comme il nous l'explique, il n'a jamais profité d'aucune aide de l'État. Tout en reconnaissant les limites du système actuel, il comprend bien l'incompréhension de milliers d'artistes bafoués.
Tous ces gens dans la rue, oui, je pense qu'ils se sont aussi sentis insultés par le gouvernement. Parce que le gouvernement a donné l'impression qu'ils ne faisaient que gaspiller l'argent public, qu'ils coûtaient seulement de l'argent, comme s'ils ne contribuaient pas au développement culturel. Je pense que la conclusion est que le gouvernement devrait vraiment identifier qui a le plus besoin d'argent, qui n'en a pas besoin. Et je pense que 25%, c'est vraiment une réduction trop importante du budget total de la culture aux Pays-Bas.
L'inquiétude des artistes hollandais, c'est un reportage signé Sonia Johnson.
Le 12-30, Natacha Van Kutsem.
Montreux continue son exploration des nouvelles tendances musicales avec le concert ce soir de Friendly Fires au Jazz Café, une formation anglaise qui renoue avec le lyrisme pop des grands groupes des années 80. Présentation avec Michel Masra.
Vous aimiez Simple Minds, les mélodies entraînantes et les vocaux exubérants, vous allez adorer Friendly Fires et ses hymnes positifs. Voilà 3 ans, le groupe anglais débarquait dans un panorama pop morose et nous invitait tout simplement à sauter dans la piscine. Elles ont été nombreux à faire le saut. Disque d'argent en Grande-Bretagne, le premier essai de Friendly Fires leur a valu d'être sélectionné pour le Mercury Prize, une prestigieuse distinction outre-Manche. Par la suite, le groupe a multiplié les tournées, séduisant un public européen adepte de musique lumineuse et funky. Le son de Friendly Fires est un excitant mélange de pop, de musique électronique et de funk froid. Les musiciens citent parmi leurs influences autant Prince que la techno très cinématographique de compositeurs tels Carl Craig. Une formule gagnante, tout particulièrement sur scène, lorsque le groupe invite des danseuses hawaïennes à groover avec lui, comme lors de leur récent concert au mythique festival de Glastonbury. Who are you? assure que ce soir, de belles hawaïennes lancent des colliers de fleurs. La formation anglaise se produit au Jazz Café, une scène presque un peu réduite pour la pop grandiloquente de Friendly Fires, dont le tout nouvel album Pala est un arc-en-ciel de sonorités euphorisantes.
Friendly Fire, ce soir au Jazz Café, Montreux à suivre en tout temps sur rtsfestival.ch et chaque jour dans ce journal de 12h30. Et autre série dans ce journal, c'est le cyclisme. Jour de repos aujourd'hui sur le Tour de France, après l'étape d'hier marquée surtout par une grosse chute et l'accident provoqué par un véhicule dans la course. Eh bien, la prise du maillot jaune par Thomas Vauclair est passée un peu au second plan. Et pourtant, le coureur est celui que les Français préfèrent et celui aussi que le quotidien, l'équipe, n'hésite pas à nommer le petit fiancé de la France. Rien que ça, Patrick Delétro.
Thomas Vauclair est une histoire à lui tout seul. Alsacien d'origine, il part avec ses parents à 6 ans en Martinique où il passe 11 années avant de rentrer en Vendée. C'est là qu'il s'est installé et qu'il est resté un peu en famille, confie celui qui lui a fait confiance dès le début, le manager de son équipe, Jean-René Bernaudot.
Thomas est arrivé avec son baluchon et son vélo Honce au sport-études, il avait 17 ans et s'il est resté, c'est aussi parce qu'on crée pas une famille dans un endroit qu'on aime avec ses équipiers, avec ses copains, ses masseurs, ses mécanos qu'il connaît, qui sont ses amis, ils font le réveillon ensemble. Alors voilà, Thomas Vauclair, s'il est resté, c'est parce qu'il y avait tout ça.
Tout ça, c'est aussi une équipe basée sur la formation, une pyramide qui part de la base, mais qui aurait pu s'effondrer l'automne dernier faute de sponsor principal. Et Thomas Vauclair est resté jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, alors qu'il avait des offres bien plus alléchantes d'autres équipes. C'est dire qu'hier, il y avait quelques larmes sur les joues de ses coéquipiers. Thomas Vauclair.
Je suis pas quelqu'un de très émotif, mais une chose est sûre, c'est que au 30 septembre de l'année dernière, quand on n'en avait pas de repreneur pour l'équipe, on n'aurait jamais imaginé un tel scénario. Et là, franchement, Europcar est venu nous faire confiance, nous parrainer. On a fait un bon début de saison, je pense qu'aujourd'hui ils ne regrettent pas leur choix. Et au-delà de tout ça, c'est vraiment la victoire. Ça fait peut-être cliché, mais on s'entend super bien. Il y a un bon groupe, il y a un bon staff, on se prend pas la tête. On fait du vélo comme on aime, avec notre philosophie, et puis bah, ça paye quoi. Alors on va pas gagner le Tour de France, ça c'est sûr. Mais on va finir, on sera aux Champs-Élysées sans regret, quoi, par contre.
Thomas Vauclair fait du vélo comme l'aime aussi le public, au panache. Et même Madame Chance semble l'apprécier, car hier, il est passé à un cheveu d'être lui aussi éjecté de la route.
Patrick Delétro qui suit pour nous donc ce Tour de France, 45e édition, jour de repos aujourd'hui. Un tour à suivre dans le journal de 12h30 ces prochaines semaines et sur rsrinfo.ch. La gestion de l'eau, un enjeu national mais aussi international. Si l'Europe a uniformisé ses lois en la matière, la Suisse a toujours sa propre législation sur la qualité de l'eau, la gestion des nappes souterraines et surtout les risques naturels. Autant de points qui vont être développés ces trois prochains jours à Sion à l'occasion d'un colloque baptisé « Hydrosystèmes continentaux et territoires européens confrontés aux différentes lois sur l'eau ». Bonjour Emmanuel Reynard.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'Institut de géographie de l'Université de Lausanne, spécialiste en hydrologie. Mettre en commun les connaissances hein, sur l'étude des cours d'eau, c'est ce que vous allez faire. Mais quels sont aujourd'hui les enjeux de ce colloque qui va vous occuper du côté de Sion ?
Alors les enjeux sont principalement ceux de la revitalisation des cours d'eau. Les différentes législations, que ce soit au niveau européen, également au niveau suisse, prévoit pour les prochaines années d'essayer de redonner un peu plus de nature aux cours d'eau. Évidemment, ça suscite différents problèmes, à la fois des problèmes scientifiques, de savoir qu'est-ce qu'on vise, quel est le niveau de nature qu'on veut retrouver. Et évidemment, ça nécessite aussi de reprendre du terrain sur des territoires occupés, donc des enjeux territoriaux importants.
Revitalisation des cours d'eau, ça met aussi en cause l'érosion, notamment des différents sols, les conséquences que ça peut avoir aussi une revitalisation de ces cours d'eau.
Effectivement, un cours d'eau transporte de l'eau, mais transporte aussi des sédiments. Et toute cette question des transferts sédimentaires, du transport de la charge solide, sont des questions scientifiques assez importantes qui nécessitent également de prendre en compte les modifications du climat. Et il y aura plusieurs présentations qui traiteront de ces aspects-là.
Alors, on l'a dit en introduction, hein, si l'Europe suit une directive commune en matière de gestion de l'eau, la Suisse, elle ne s'est pas alignée. Malgré ça, comment la Suisse regarde justement ses voisins européens dans ce domaine ?
Alors, la Suisse est située au centre de l'Europe. Tous les cours d'eau, les grands cours d'eau suisses s'écoulent en direction de l'Europe. Donc évidemment, ce qui se fait en Suisse a des répercussions sur les pays qui se situent à l'aval. Et vice-versa, ce qui est développé à l'échelle européenne, notamment toutes les approches par bassin versant, ont aussi des répercussions sur les parties amont des bassins versants, comme le Rhin, le Rhône, par exemple.
Donc très clairement, on ne peut pas ignorer ses voisins en matière de gestion de l'eau, c'est carrément impossible.
Et non. Et il fut un temps où on a peut-être un petit peu ignoré les voisins, notamment sur le Rhin, avec des répercussions en termes de qualité des eaux du Rhin à Laval qui étaient assez catastrophiques. Et ce n'est qu'au moment où on a abordé l'ensemble du bassin versant qu'on a pu récupérer de la qualité et les fonctions écologiques du fleuve également dans les eaux navales, que ce soit en Allemagne ou en Hollande, par exemple.
Est-ce que ce colloque, c'est aussi, Emmanuel Reynard, une façon de dire les scientifiques sont tributaires des décisions politiques, alors on veut aussi montrer le travail qu'on effectue vraiment sur le terrain, puisqu'on doit aussi tenir compte, effectivement, des décisions politiques?
Alors ça, c'est effectivement un des objectifs du colloque, c'est de travailler sur cette interface entre le politique et le scientifique, parce que il est vrai que des décisions politiques, comme par exemple l'adoption, il y a maintenant un peu plus de 10 ans, de la directive cadre européenne sur l'eau, ont des répercussions ensuite en termes de besoins de recherche, et ça se répercute sur le travail des scientifiques. Donc c'est un moyen, un colloque tel que celui-ci, de mettre en commun et aussi de visibiliser ce qui est fait dans les laboratoires universitaires.
Et c'est aussi de sensibiliser du coup aux améliorations qui pourraient être possibles dans la gestion de l'eau en Suisse ?
Tout à fait, que ce soit en Suisse ou dans les autres pays européens. Il y aura d'ailleurs, suite à ce colloque, une publication qui paraîtra à l'occasion du congrès géographique européen qui a lieu en août 2012. Et l'idée est de faire une synthèse à quelques années de l'échéance en 2015 de la première étape de la directive cadre européenne sur l'eau.
Il sera aussi question de la gestion des pollutions. Et on a eu un triste exemple hein, avec Fukushima. On pensait à la pollution par l'air. On a aussi vu la pollution par l'eau, une catastrophe évidemment qui interroge le grand public. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a plus une prise de conscience? On prend aussi en considération que la pollution par l'eau est aussi très, très, très grave.
Alors, on le prend en compte, mais ce n'est pas un aspect central de ce colloque qui portera plus sur les aspects dynamiques des rivières que les questions purement de qualité des eaux.
Et la gestion des risques naturels, là aussi, ce sera abordé, puisqu'on sait que l'humain est de plus en plus présent, évidemment, sur les territoires, et ça peut avoir des conséquences hein, sur les risques naturels.
Alors, ce sera abordé, d'une part, par un certain nombre de communications qui montreront différentes options qui sont prises maintenant, et également lors de l'excursion, mercredi, qui portera sur le Rhône, la troisième correction du Rhône, la gestion également des systèmes torrentiels, comme l'île Graben, et des systèmes d'alarme qui sont mis en place sous l'égide du canton du Valais.
Oui, donc vous faites carrément aussi du terrain et des sorties, excursions carrément effectivement dans les endroits stratégiques. Donc
effectivement, et on espère que la météo qui est annoncée pour mercredi sera un petit peu décalée parce qu'il est prévu, semble-t-il, des orages assez violents.
Oui, apparemment.
Ça nous permettra peut-être de voir fonctionner ces cours d'eau en l'état, mais on préférerait avoir un peu plus de soleil.
Je vous remercie Emmanuel Reynard. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut de géographie de l'Université de Lausanne et spécialiste en hydrologie. Vous étiez en direct de Sion. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup.
Un mot encore de la bourse suisse à la mi-journée. L'indice SMI est en baisse 0,6% à 6117 points aujourd'hui. Les prévisions météo de Carole Dubuis.
Cet après-midi, hormis quelques rubans nuageux et des cumulus en montagne, le ciel restera bleu. Le mercure affichera 26 à 27 degrés en plaine. En vallée, il se hissera jusqu'à 29. À 4000 mètres, il indiquera 0. En haute montagne, un vent modéré de sud-ouest soufflera. Plus bas, il restera faible. Une légère bise se fera sentir sur le bassin lémanique. Demain, le temps sera estival avec 29 à 32 degrés au maximum en plaine. L'isotherme du 0 degré remontera à 4200 mètres. Le ciel se se voilera progressivement de nuages d'altitude en seconde partie de journée. Une dégradation est prévue pour mercredi, mais les premiers épisodes orageux pourraient déjà se manifester fortement dans la nuit, spécialement dans les Alpes valaisannes. Mercredi, le ciel restera encombré avec de fortes et fréquentes précipitations. Les orages s'étendront à toute la Suisse romande. Le mercure sera frileux avec un maximum de 21 à 24 degrés en pleine.
La météo avec Crédit Suisse,
la Fondation Pierre Giannada
et son exposition Claude Monet.
Infotrafic RSR.
On vous rappelle cet accident sur l'autoroute Genève-Lausanne. Un accident est donc survenu. Il perturbe encore le trafic entre les jonctions de Nyon et de Gland en direction de Lausanne. Fin de ce journal, merci à la rédaction et à l'assistance technique. Demain, dans le journal de 12h30 en direct, nous recevrons la psychothérapeute et psychologue Lise Schildt-Paco. Dès demain, elle participe à un cycle de conférences consacré aux psychoses du côté de Fribourg. Excellent après-midi sur la première, il est 13h.